Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes.
Bonsoir à tous et surtout bonne année. Bienvenue, bonne et heureuse année. Donc nous allons continuer notre série de conférences en parlant cette fois de l'énergie noire qui va être soit représentée par une constante cosmologique, soit un champ scalaire. Alors, on parle toujours de quintessence ou de cinquième élément. Je voulais représenter dans cette première diapo quels étaient les autres éléments qui sont bien connus. Ici, on a les baryons, c'est-à-dire neutrons, protons, toute la matière ordinaire dans laquelle nous sommes faits, enfin, qui sont plutôt les particules élémentaires des quarks, etc. Puis on a les leptons, les neutrinos, les électrons, muons, etc., tau. Les photons aussi, ces trois en couleur, nous les connaissons très bien, c'est les trois premiers éléments. Et par contre, tout ce qui est un peu noir, là, la matière noire, dark matter, qui est le quatrième élément, puisque c'est des particules exotiques. On ne sait toujours pas de quoi c'est fait, mais c'est quand même un quatrième élément. Ce n'est pas fait de matière ordinaire. Et puis, l'énergie noire, dark energy, qui aussi peut être un cinquième élément. On verra que peut-être on peut parfois mixer les deux, mais c'est donc la quintessence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie sombre? On a vu dans les précédentes séances que ça permettait d'expliquer l'accélération de l'expansion qu'on a découverte en 1998, donc il y a plus de 25 ans maintenant, grâce aux supernovae 1A, ces supernovae étant des chandelles standards qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin que les céphéides qui étaient les précédentes et qui, on s'est rendu compte tout d'un coup que les galaxies qui étaient à des distances qu'on avait déterminées avec la constante de Hubble, justement l'expansion, eh bien, elles étaient beaucoup plus loin que prévu par cette constante. Donc ça voulait dire que l'expansion n'est pas décélérée dû uniquement à la gravité. D'habitude, avant, il n'y avait que la gravité, donc une force attractive. Donc, l'expansion était décélérée, maintenant, elle était accélérée. Donc, ça veut dire qu'il y a une force répulsive, et non pas attractive, qui est cette pression négative avec une énergie positive. Donc, cette énergie noire n'interagit pas du tout avec le rayonnement, sinon elle l'aurait vu. Il y a une grande pression négative, contrairement à la matière qui a une pression nulle, même la matière noire. Et puis, il y a une distribution très homogène. Quand on fait des lentilles gravitationnelles, on détermine la distribution de masse et d'énergie sombre. Elle est complètement distribuée partout. Donc, ça pourrait être encore une constante cosmologique, lambda, comme l'avait prédit Einstein, qui en a ensuite dit que non, on n'en avait pas besoin. Mais en fait, on en a peut-être besoin. Mais on ne sait pas exactement. Pour l'instant, on est en train de déterminer justement la variation dans le passé de cette énergie noire. Est-ce que c'est vraiment une constante en énergie ou est-ce qu'elle varie? Elle est dynamique en fonction du temps. Et ça, on le saura. Donc, il faut quand même prévoir si jamais on trouve que ce n'est pas une constante, qu'est-ce que ça peut être comme quintessence? Ou alors la modification de la gravité, parce qu'on a déjà modifié la gravité pour beaucoup de choses, pour la matière noire aussi, pour essayer de rapprocher la mécanique quantique de la force de gravité qui n'est toujours pas réunifiée. Donc tout ça va peut-être nous aider à trouver une solution. Alors je vous rappelle que on a déjà essayé, au XXe siècle, Wolfgang Pauli qui faisait de la mécanique quantique, et on avait déjà vérifié qu'on a un vide, une énergie du vide dans le laboratoire. Lorsqu'il n'y a pas de particules, pas de photons, rien du tout, il y a quand même des fluctuations qui sont dues au principe d'incertitude de Heisenberg. En étant très petit, vous pouvez avoir des fluctuations énormes d'énergie, donc création de photons, création de particules, antiparticules, qui est représentée ici. Mais lorsqu'on extrapole ce vide quantique du laboratoire à l'univers, eh bien, on trouve une énergie énorme qui est 120 ordres de grandeur, donc 10 puissance 120 fois l'énergie observée par les supernovae, etc., qui accélèrent l'expansion. Donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et certainement on abandonne cette idée d'extrapoler le vide quantique parce que ce n'est pas du tout le bon ordre de grandeur. Alors quelles sont les principales solutions? On va parler de champs scalaires, il y en a beaucoup qui ont été prévus dans la littérature, donc on va essayer de décrire des modèles génériques, quelles sont les principales caractéristiques d'un modèle de quintessence, le cinquième élément. On va voir qu'il y a peut-être une analogie avec ce qu'on a décrit déjà pour l'inflation, c'est qu'au début de l'univers, il y a une dilatation de l'espace qui va justement dilater les fluctuations quantiques du vide, cette fois-ci c'est le vrai, et qui va donner des fluctuations macroscopiques. Donc on va peut-être s'inspirer de cela. On sait qu'on peut écrire la pression donc de l'énergie noire en une équation d'état, un peu comme celle des gaz parfaits, on a PV égale NKT, donc P étant proportionnel à ρ. Ici, on aura un P avec un W, ρ étant l'énergie du vide, et W doit être négatif pour que, justement, une force répulsive, et surtout, on l'a vu, inférieur à moins un tiers, ce qui revenait de l'équation de Friedmann. Donc, on va essayer de décrire divers modèles de quintessence, aussi de kinétique essence ou K-essence, des caméléons, etc. Et puis, on verra aussi qu'il y a d'autres modèles fluides. L'intérêt de ces modèles fluides, comme le gaz de Chaplygin, c'est de rapprocher, de faire dans le même formulaire, enfin formalisme, de rapprocher la matière noire et l'énergie noire. Dans certaines circonstances, ce serait la matière noire, dans l'autre, l'énergie noire. Donc ça permettrait de simplifier un petit peu. Et puis, on essaiera de décrire un petit peu les entreprises de gravité modifiée. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y en a beaucoup de tentatives? Par exemple, la théorie des cordes, la théorie gravité quantique à boucle, qui était là, non pas pour l'énergie noire au départ, mais pour essayer de rapprocher mécanique quantique et gravité, et que peut-être on pourra trouver une solution à l'énergie noire dans ce cas-là. Alors déjà, on pourrait dire que on a des contraintes. Est-ce qu'en fonction du temps, est-ce qu'on peut avoir une grande variation de cette énergie noire? Alors en général, dans cette équation d'état qu'on va revoir souvent, ce W, il va varier. Sa variation, elle est mise par exemple dans le formalisme Chevalier, Polarski, Hilder, donc ces trois initiales, c'est CPL. C'est-à-dire qu'on va écrire qu'on a une valeur à Z égale 0, aujourd'hui, localement, et puis une valeur qui dépend du redshift Z, en termes Z sur 1 plus Z, ou bien 1 moins A, A étant le rayon caractéristique de l'univers. Comme vous savez, le rayon A, si on le calibre pour être 1 aujourd'hui, eh bien, il est égal à 1 sur 1 plus Z. Donc 1 moins A, c'est exactement égal à Z sur 1 plus Z, donc c'est la même chose. Mais ça veut bien dire que lorsque Z égale 0, on a bien cette W0. Et la variation est remise dans ce terme WA. Alors dans cette variation-là, on aurait pour une constante cosmologique, c'est-à-dire le modèle standard, lambda CDM, lambda qui est la constante cosmologique, CDM la matière noire froide, cold dark matter, eh bien, en fonction du redshift, si on remonte dans le temps, vers le Big Bang, on aurait, aujourd'hui on a 70% d'énergie noire, et on aurait quelque chose qui va descendre vers zéro. On sait que dans le modèle standard, l'énergie noire n'est absolument pas sensible au début de l'univers, elle ne commence à être sensible qu'il y a 5 milliards d'années. Donc ici par là. Par contre, si on avait ce genre de modèle où l'énergie était encore là à grand redshift, et surtout lorsqu'il y a la nucléosynthèse primordiale qui forme l'hélium, le deutérium, le lithium, les premiers éléments, ça c'est les premières minutes, lorsque la température est égale à 1 MeV, eh bien à ce moment-là, on n'aurait pas du tout le même rapport de neutrons et de protons dans le plasma initial. Et donc, on n'aurait pas du tout les bonnes abondances d'éléments primordiaux, donc ça ne marcherait pas du tout. Donc ça, on peut l'éliminer déjà, si on sait, on connaît les abondances d'hélium primordial. Et donc, on a plutôt ce genre de possibilité. Toutes ces courbes-là sont possibles, car elles ont une petite, toute petite epsilon, énergie noire à grand redshift. Donc déjà, on a une contrainte. Alors, quelles sont les autres contraintes? Ici, on a reporté une contrainte due assez récente, d'ailleurs en 2022, qui est due d'abord au fond cosmologique observé par Planck, le CMB, et puis les Panthéons, là c'est des supernovas, et puis les BAO. Alors on voit que si on met toutes ces contraintes, la plus faible est ici, et puis la plus forte est ici, on est plutôt dans cette région-là, alors que le modèle standard, ce serait W égale moins 1 et WA égale 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation dans le temps. Donc vous voyez qu'on déjà, les contraintes actuelles s'éloignent un petit peu, elles ne sont pas complètement incompatibles avec le modèle standard, mais elles s'éloignent un petit peu. D'où la raison d'essayer de trouver des modèles alternatifs. Donc le modèle le plus simple, c'est donc la constante cosmologique, mais il est possible que les données ne nous donnent pas raison, et donc il faille considérer tous ces champs scalaires qui vont être un petit peu complexes, mais donc on ne connaît rien. D'ailleurs, alors ce champ scalaire, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà un petit peu vu avec l'inflation, c'est un champ qui a un spin zéro. En fait, s'il y avait une particule sur un spin zéro, quand vous avez par exemple le photon qui est un boson avec un champ vectoriel en quelque sorte, et un spin 1. Tous les fermions sont des particules à spin 1,5. Là, le spin 0, on n'en a qu'un seul dans les particules élémentaires connues, c'est le boson de Higgs qui est un spin 0. Mais ce serait un autre champ, donc scalaire, qui serait dénommé phi par exemple, et dont la pression serait justement celle-là. Donc on aurait un potentiel, mais de phi, une énergie cinétique, alors phi point c'est la dérivée de phi par rapport au temps. Donc on a 1,5 phi point 2, c'est l'énergie cinétique. La pression est égale à cette énergie cinétique moins le potentiel. La densité, c'est la somme de l'énergie cinétique et du potentiel. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est qu'une pression soit très négative pour que, justement, W soit inférieur à moins 1/3. Donc là, ce qu'il y a de négatif dans cette pression, c'est moins V. Donc il nous faut quelque chose où phi point est assez faible. Le terme cinétique doit être faible pour que la pression soit négative et qu'il y ait une expansion accélérée de l'univers. Donc il faut que ce soit quelque chose qui descende lentement. Vous voyez, V de phi, là, descend vers sa position d'équilibre, qu'il roule lentement. Et c'est un petit peu ce qu'on avait dit pour l'inflation. On avait un champ scalaire qui roulait lentement vers sa position d'équilibre. C'est dû à ça. Alors on a aussi cette équation de conservation de l'énergie qui est ici. On peut obtenir cette équation qui ressemble un peu à un oscillateur harmonique avec un terme de friction qui est proportionnel à la constante de Hubble. Donc si on essaie de calculer le petit W qui est le rapport de P sur ρ, donc ça va être P ici et ρ, donc on va faire le rapport des deux, W. Vous voyez qu'on a l'énergie cinétique moins le potentiel et la même chose avec plus. En fait, on n'a qu'un seul terme qui est intéressant. Là, on peut donc diviser par ce terme cinétique, on va appeler Tekin. Donc on a 1 moins cette quantité, V sur Tekin, et plus V sur Tekin. Donc on a une fonction d'une seule variable que l'on peut plotter ici. Ici on a cette variable, le rapport de l'énergie potentielle sur l'énergie cinétique, et puis W. Alors on voit que W, si cette quantité est égale à moins 1, W va être infini. Donc on a bien cette asymptote là, infini. Et puis si V sur Tekin tend vers l'infini, alors par contre W tend vers moins 1, c'est justement la constante cosmologique, c'est cette deuxième asymptote. Vous voyez qu'on a deux asymptotes et on a une hyperbole, en fait, une hyperbole qui occupe ces deux régions du diagramme avec les deux asymptotes. Pour W égale 1, on aura un fluide rigide, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut. Pour W égale 0, ici, matière noire froide. Hein. Si W égale 0, la pression est nulle, donc c'est plutôt une matière. Et en fait, ce qu'on veut, c'est W négatif et proche, c'est donc cette région-là qui nous intéresse, entre moins 1/3 et moins 1. Alors, ce qu'on a mis ici en vert, là, on l'appelle fantôme. Pourquoi ? Parce que l'énergie cinétique est négative. On a une énergie ou une masse négative, ce qui n'est pas du tout physique. En tout cas, c'est quelque chose de complètement instable. Et on va essayer de s'intéresser à cette instabilité. Pourquoi c'est complètement instable ? En fait, certains ont dit, bon, peut-être que les données vont nous donner une région, une exploration vers W égale moins 1 avec des barres d'erreur. Donc il faudrait peut-être considérer cela, bien que ce soit normalement très peu physique. C'est-à-dire que dans une façon temporaire, alors le temporaire étant très long, puisque c'est l'âge de l'univers quand même, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais enfin. Situation de W inférieur à moins 1 strictement n'est pas du tout physique, il y a une densité d'énergie qui croît avec l'expansion, etc. Mais j'en parle parce que c'est ce que exploitent beaucoup les livres de science-fiction en disant que le futur de l'univers, ce serait un grand déchirement, le Big Rip que vous avez peut-être vu, et tel. Mais en fait, ça n'existerait pas si vraiment on prend que les quantités physiques, on doit avoir W soit égal à moins 1, soit supérieur à moins 1, mais on n'aura jamais ce genre de situation non physique. En fait, on a une condition comme ça, null dominant energy condition, pour prévenir cette désintégration d'énergie ou la propagation supérieure à la vitesse de la lumière, etc. Il faut de toute façon que l'énergie soit positive pour qu'il y ait une courbure nulle. Ça, on a une des contraintes observationnelles. Alors, pour ces contraintes, justement, Carole et collaborateurs avaient bien détaillé toutes ces valeurs possibles. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais selon que l'on... Alors ici, on a le diagramme P et ρ. Selon que la densité doit être positive, normalement, donc on doit être dans ce secteur. Il y avait plusieurs cas possibles, mais le cas le plus physique, en fait, c'est d'avoir ρ positif, d'avoir ρ plus P aussi positif, donc on a cette diagonale, et puis Romain P aussi, cette diagonale-là. Peut-être celui-là est peut-être plus physique, puisque c'est W égale moins 1 tiers. On a Rho plus 3P positif. Et on a vu qu'il n'y avait d'accélération que si on est dans cette partie-là. Donc c'est plutôt cette partie-là qui serait positive. Donc on arrive dans les modèles à représenter surtout cette condition de nulle dominante énergie conditionnée. Alors si on regarde ce diagramme pression-énergie, densité d'énergie, je vais tout de suite à ce gaz de Kaplan-Meier, que je décrirai un peu plus tout à l'heure, mais qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, avec la pression, il y a plusieurs formes. Normalement, c'est surtout 1 sur ρ. Donc, lorsque ρ est très grand, vous avez 1 sur ρ. Donc, ça va être cette partie-là. Ici, vous avez W égale moins 1 tiers. Donc, ici, il n'y a pas d'accélération. Il faut qu'on soit dans la partie grise pour qu'il y ait une accélération, et qu'on s'arrête à W égale moins 1, c'est-à-dire à la constante cosmologique. Donc c'est toute cette partie-là qui normalement nous intéresse, et physique. Et alors pourquoi cette forme-là est assez intéressante, c'est que on a, lorsque la densité est très forte, par exemple, vous êtes dans une surdensité de l'univers, des galaxies, des amas de galaxies, etc., et on a quelque chose qui devient zéro. Lorsque ρ est très fort, ça devient zéro, on est ici. Et donc, on a, si on a une pression nulle, c'est plutôt une matière, c'est une matière noire. Donc, le fluide deviendrait matière noire lorsqu'on a besoin de beaucoup de matière dans les halos autour des galaxies. Et puis, lorsqu'on aurait ρ très faible, on peut négliger à ce moment-là le dominateur, et on aurait quelque chose qui est réparti un peu partout et qui représenterait plutôt une énergie noire. Donc, ce serait quelque chose qui ferait un peu les deux. C'est pourquoi ce genre de modèle a un petit peu d'attractivité. Donc, j'avais mentionné aussi qu'il y a une symétrie, enfin un rapprochement à faire avec l'inflaton. L'inflaton, c'est le champ scalaire qui a été pensé et considéré et travaillé au début de l'univers, juste après le Big Bang. Mais alors là, les constantes de temps ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'énergie noire. L'énergie noire va avoir un certain facteur de dilatation de l'espace, mais en des milliards d'années. Ici, c'est en 10-33 secondes, avec un facteur 10 puissance 26, donc c'est considérablement différent. Mais le principe, le V de phi, etc., et le roulement lent est à peu près le même genre de choses. Et on a vu que Rattray et Peebles avaient déjà considéré, il y a un certain temps, un inflaton qui devenait ensuite, avec le temps, énergie noire, donc qui rapprochait les deux. Enfin, aujourd'hui, ces modèles sont un petit peu moins développés. Donc ici, peut-être même origine, mais pas forcément. Donc si on regarde ce qu'on avait discuté pour l'inflation, donc on avait soit une brisure de symétrie. Ça, la brisure de symétrie veut dire qu'en effet, au début de l'univers, lorsque tout est chaud, toutes les forces sont réunies en façon unique. On sait que déjà aujourd'hui, on a pu trouver la réunification de la force faible et de la force électromagnétique. Donc dans ce même genre d'idée, on peut dire que l'univers est beaucoup plus symétrique au départ, lorsqu'il est très chaud et très dense, et puis progressivement, lorsqu'il se refroidit, la symétrie est brisée et on a un autre état d'équilibre qui va se retrouver, et donc le système va progressivement rouler vers un autre état d'équilibre, et c'est ça en fait qui produit l'inflation, qui produit la quantité de matière et de réchauffement qui s'est produit ici. Donc ça, c'est un petit peu les caractéristiques que l'on voit, et l'équation est un peu la même que l'on a avec l'énergie noire. Alors le modèle de gaz de Chaplin-Meier, ça peut paraître bizarre, parce que Chaplin-Meier a vécu, comme vous voulez, au début du XXe siècle, et il a trouvé sa formule de gaz en 1904, ce qui veut dire qu'on ne faisait pas du tout de cosmologie à l'époque, puisque ce n'est qu'en 1920 qu'on a découvert les galaxies et puis l'expansion de l'univers. Donc il avait trouvé cette forme-là, parce que c'était une forme plus simple pour travailler l'aérodynamique des avions. C'était un ingénieur qui regardait l'hydrodynamique. Et donc, c'était quelque chose qui lui permettait de calculer beaucoup mieux. Et donc, on reprend l'expression, mais évidemment pas du tout la même physique pour essayer de trouver quelque chose qui représente le fluide qui serait l'énergie noire. Alors, il y a beaucoup de... Au départ, c'était ça. Maintenant, il peut y avoir d'autres formes avec un exposant alpha. Et la grande idée, là, c'est que l'énergie noire deviendrait matière noire et inversement. Et donc, on n'aurait qu'un quatrième élément. On appelle ça parfois carte essence parce qu'il n'y a qu'un seul élément. Un seul quatrième. On n'a pas besoin de cinquième élément. Donc, lorsque ρ est très grand, la pression est nulle et on a une matière noire qui ensuite se désintègre en énergie noire lorsque on a une densité très très petite. Alors, cette paramétrisation, elle est un petit peu. Elle peut être très complexe. Hein, il y a beaucoup de développements possibles. Je passerai rapidement là-dessus. On a pensé à un certain terme de viscosité qui permettrait de passer la barrière de W égale moins 1. Donc là. Il y a aussi un rapprochement avec la théorie des cordes qui permet de trouver un gaz de Chaplygin à une certaine Brahe. Et puis, avec toutes ces récemment, Zheng et al. En 2022, ont essayé de regarder un peu les quelques modifications du gaz Chaplygin qui étaient proposées dans la littérature. On voit qu'il y en a certains qui marchent bien. Alors ici, le paramètre Q, c'est la décélération de l'univers, la dérivée seconde de la constante de Hubble. Ici, c'est plutôt la constante de Hubble, R. Et on voit que si le lambda CDM, c'est la bleue turquoise, on voit qu'il y en a au moins deux modèles qui marchent bien, et ces deux-là peuvent être éliminés. Et de même, dans d'autres variables, S et R, on voit que certains modèles marchent avec les observations. Alors, est-ce qu'ils marchent aussi avec la structuration de l'univers? Alors, ici, on a la loi, le spectre de puissance des structures en fonction de leur nombre d'ondes K. K, c'est 2π sur lambda, lambda la taille des structures, donc ici on a les petites structures, ici les grandes, on voit que ce qui est prédit par ce genre de formulation marcherait avec la structuration de l'univers, donc il y a quand même une certaine adaptation aux observations. Il y a par contre d'autres modèles qui sortent de lorsqu'on a W qui tend vers moins 1 et au-delà, un champ tachyonique. Alors tachyonique, ça vient du fait qu'on a peut-être une masse imaginaire avec un M2 négatif et peut-être une propagation supérieure à la vitesse de la lumière, donc c'est dans la partie instable. Et donc je la mentionne quand même parce que c'est ce genre de modèle prévoit que l'univers n'est pas en expansion accélérée jusqu'à l'infini. En fait, ce qu'on extrapole aujourd'hui dans le modèle standard, c'est que la densité de matière va se diluer jusqu'à l'infini, et ce sera la dilution qui est l'avenir, le destin de l'univers. Et on peut penser que dans certains modèles, on a une grande décélération, ce qu'on appelle le Big Bang, et que finalement cette accélération va se décélérer. On n'est jamais à l'abri d'un modèle comme celui-là, donc peut-être, on n'est pas sûr que finalement l'accélération va durer jusqu'à l'infini. Alors ici, c'est un développement de ce freinage brusque. Ici, où on a le champ T qui est le champ phi, en fait le champ scalaire phi tachyonique ici, et le diagramme de phase de T avec sa dérivée. Et on voit qu'il y a ici une séparatrice entre toutes les possibilités et un freinage brusque qui est calculé par Guérini et al. Alors, cette énergie noire, elle est depuis quelques années, elle est utilisée pour essayer de résoudre les tensions qu'il y a dans le modèle standard de lambda CDM. Ces tensions, on en a parlé dans l'épisode précédent, hein, plutôt l'année dernière. On avait mentionné la tension sur H0, la constante de Hubble, qui a été mesurée de façon empirique par les chandelles standards, les céphéides, les supernovae, donc l'échelle de distance, à des valeurs de 73, dans les unités kilomètres par seconde par mégaparsec, mais avec une précision de 1%, donc on commence à être très précis, et qui, par le fond cosmologique, le CMB de Planck, il a été mesuré une valeur 67, c'est-à-dire qui est vraiment différente de l'autre, surtout quand on a une erreur qui n'est que d'1%. Donc cette tension est très intéressante et beaucoup de gens s'y intéressent. Il y a aussi une tension sur le S8. Alors qu'est-ce que c'est que le S8? C'est la structuration des grandes structures, galaxies et amas de galaxies. Et ce paramètre de structuration est très grand au début de l'univers, mesuré par le fond cosmologique de Planck, hein, à nouveau. Et lorsqu'on regarde les galaxies aujourd'hui et toute la structuration des amas de galaxies, et bien c'est beaucoup moins. Donc on a le même problème de tension sur H0 et sur H8. Et donc on aimerait savoir quelle est la solution à ce genre de problème. Est-ce que ça peut être lié à l'énergie noire, justement? Alors, par exemple, ces dernières années, beaucoup ont proposé qu'il y ait un épisode de énergie noire, donc DE, précoce. Alors précoce, ça veut dire ici, vous avez le Big Bang, hein, symbolisé par cette accélération de l'expansion ici. Ici, vous avez la dernière surface de diffusion qui est vue dans le fond cosmologique. Et donc, bien avant la dernière surface de diffusion, donc la dernière surface de diffusion, c'est Z égale 1000, là, puisque la température doit être égale à 3000 pour que les protons et les électrons se recombinent en atomes d'hydrogène. Donc, ça nous fait que Z égale 1000, et la température, c'est 1 plus Z fois le 3 degrés Kelvin qu'on a aujourd'hui. Donc, ici, on aurait, bien avant, c'est-à-dire Z égale 3000 ou 4000, un épisode d'énergie noire. Alors ça paraît curieux, puisqu'on a vu que dans le modèle standard, l'énergie noire elle n'est pas du tout sensible dans cette phase-là de début de l'univers. Mais ça pourrait être une solution à cette tension. Alors pourquoi c'est une solution à cette tension? C'est parce que il va réduire la taille de l'horizon sonore. Alors je vais décrire un petit peu ce que c'est. Alors cet horizon sonore, vous savez, c'est le chemin parcouru par le son. Alors pourquoi le son? C'est que lorsqu'on a le plasma électron-proton qui est en équilibre avec la pression de radiation, on sait qu'il y a un équilibre de pression, il y a des ondes de pression, donc des ondes acoustiques, donc du son, qui se propagent. Et dans le modèle standard, il se propage jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang, qui est la recombinaison. Donc les particules chargées se recombinent, on devient neutre, et donc on se découple des photons, on n'a plus d'oscillation acoustique, donc on s'arrête là, le découplage. Alors le découplage, il a un petit peu d'abord les photons, puis ensuite les baryons, enfin c'est très peu, j'ai présenté ça, mais en fait le rayon de découplage juste après avec les baryons ou les photons, c'est à peu près la même chose, à 1% près. Donc on va oublier ce détail. Mais donc que se passe-t-il? Normalement l'horizon donc doit faire à peu près 150 mégaparsecs avec le modèle standard. Si jamais vous avez une énergie noire qui pendant très peu de temps puis ensuite elle disparaît, va accélérer l'expansion, à ce moment-là, vous allez refroidir l'univers beaucoup plus tôt. Et donc, vous allez obtenir, à ce redshift-là, Z égale 1000, vous allez obtenir un temps qui ne sera pas 380 000 ans, mais 200 000 ans, puisqu'il va être en expansion accélérée et se refroidir beaucoup plus vite. Donc, à ce moment-là, on aura la recombinaison avant, mettons 200 000 ans. Et donc, le son aura eu le temps de parcourir un certain chemin, l'horizon sonore, qui sera beaucoup plus petit. Donc, vous réduisez cet horizon sonore qu'on appelle RS ou RD. Et ce qu'on mesure, nous, c'est l'angle. L'angle de cet horizon. Soit on le mesure avec le fond cosmologique, avec le satellite Planck, par exemple. On a des fluctuations. On mesure les plus grandes fluctuations. Je vais le remettre dans les slides suivantes. Et on mesure donc le rapport entre cette règle horizon sonore divisé par la distance qui nous relie avec cette horizon sonore. Et cette distance, eh bien, elle varie comme 1 sur H. Alors H, ici, qu'est-ce que c'est? La constante de Hubble au carré. C'est la matière. La densité de rayonnement, parce qu'au début, il y a beaucoup de densité de rayonnement, mais elle va décroître en 1 plus Z4, donc elle va devenir négligeable. Donc c'est surtout la matière ordinaire et puis la constante cosmologique dans le modèle standard. Donc cette H-là, vous voyez que le produit RSD, ça va être le RS sur D, ça va être le produit RH. Donc on a R et H qui sont liés par un... Ils sont inversement proportionnels, c'est-à-dire que si on a un θS, on mesure un θS dans le satellite Planck, et le satellite Planck a mesuré ça, c'est la barre d'erreur que vous avez ici en vert, eh bien... On a soit un grand RS et un petit h, soit un petit h et un grand RS, en fait. C'est le produit RSH qui est mesuré. On mesure l'angle. Avec les BAO, c'est plus tard. On mesure la même chose. C'est l'horizon sonore, mais qui était en expansion avec l'expansion de l'univers, et puis qui a été gelé. Hein. Cet horizon est gelé dans la matière, et on la mesure à Z égale 1 ou 2. Alors évidemment, là, on n'a pas la même pente. Ici, il y a plusieurs θs selon la valeur d'oméga m. Et puis, lorsqu'on mesure un BAO, plus tard, on aura cette hyperbole là, qui est ici. Alors ce que vous voyez, c'est que c'est la tension de Hubble, on appelle SHOES, c'est le programme qui mesure les supernovas. Alors pourquoi ça s'appelle SHOES ? Ça, c'est assez, c'est la magie des acronymes. S veut dire supernova, puisqu'on les mesure avec les supernovas, pour H0. Alors, ici, vous avez H0, et puis vous avez l'équation d'état. Donc, le consortium qui mesure les supernovas, il s'appelle SHOES, et il mesure 73, plus ou moins 1 km par seconde par mégaparsec, cette constante de Hubble. Donc, c'est cette valeur-là de H0, 73, avec une barre d'erreur en gris. Et les BAO nous donnent ça, c'est-à-dire elles mesurent le θ, et elles mesurent le produit de R et de H. Donc, cette barre d'erreur ici. Vous voyez que même si on veut varier un tout petit peu dans ce coup-là, avec Planck qui est ici, on n'arrivera jamais à arriver à cette valeur de chaussure. On n'arrive pas à rentrer dans la chaussure, si je puis dire. Alors, pour l'univers jeune, il n'y a aucun problème pour le modèle standard. Hein, on mesure 67, plus ou moins 0,47. Vous voyez que c'est très précis. On le mesure par plusieurs choses, par exemple le θs. θs, c'est ici l'horizon sonore. Vous avez ici la taille des structures, la fonction de puissance. Vous avez la carte des fluctuations mesurées par le satellite Planck. Vous mesurez en fonction de l'angle θ, la taille angulaire. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de bruit. Pourquoi ? Parce que vous avez très peu de grosses structures. Donc 90 degrés, il y en a deux ou trois ici. Donc il y a une variance cosmique qui vous montre qu'il y a beaucoup de bruit. Mais ensuite, lorsque vous avez plein de petites structures d'un degré ou autre, vous avez des barres d'erreur qui sont très petites. Vous avez l'horizon sonore, c'est la plus grande taille qu'a pu parcourir le son ici. Et vous voyez qu'on a une précision assez grande sur cet horizon sonore, mais c'est le produit de RS et de H. Et puis ensuite, on a d'autres contraintes. On a des contraintes avec le lentille gravitationnelle, puisqu'on mesure les structures. Ensuite, plus loin, on sait comment les photons ont été déviés. Et puis, on a la géométrie, etc. On a énormément de contraintes. On a aussi l'effet Sachs-Wolff, qui on en a déjà parlé, mais je rappelle, c'est que lorsqu'on a un puits de potentiel, le photon, lorsqu'il descend dans le puits de potentiel, il va toujours à la même vitesse, mais il prend de l'énergie. Donc, il devient plus bleu. Et lorsqu'il ressort, il redevient plus rouge. S'il n'y a pas d'énergie noire, il a la même couleur à l'entrée qu'à la sortie. Mais si il y a de l'énergie noire et une expansion accélérée, à ce moment-là, le puits de potentiel se réduit par l'expansion et il ressort plus bleu. Et ça, on a vu que cet effet n'existait pas à grand Z, donc il n'y avait pas d'effet de énergie noire et d'accélération. Alors quand même, il y a énormément de modèles. Je fais une liste, ce n'est pas pour qu'on la lise tout, mais pour que vous voyez un petit peu le nombre de modèles qui a été fait. C'est un article de revue de Genomesic en 21. On a le modèle standard, lambda CDM, et on voit s'ils arrivent à correspondre aux données dans la structuration de l'univers, le paramètre S8, la constante de Hubble, H0, et puis, RH ici. Donc, les données sont les barres grises. Ça, c'est le survey des structures, des grandes structures. On est à peu près là. Ici, c'est la valeur 73 de la constante de Hubble localement, alors qu'on sait que le Planck le mesure ici. Donc, vous voyez que ici, on a des problèmes, la plupart du temps, pour le modèle lambda CDM, pour être compatible avec les données locales. On est compatible avec les données de l'univers jeune, mais pas locales. Et puis, on a des modèles avec une énergie noire précoce, un épisode d'énergie noire précoce, donc d'accélération de l'expansion précoce. Et il y en a beaucoup qui ne correspondent pas non plus. C'est quand même assez difficile. Il y en a un qui marche ici avec ça, et c'est une idée qui était assez intéressante, c'était de dire, puisqu'on a besoin d'une accélération, donc d'un épisode d'énergie noire à exactement là où il y a équivalence entre matière et rayonnement, là il y a une coïncidence, eh bien, ils pensent que peut-être c'est le moment où les neutrinos commencent à se découpler et à devenir non-relativistes. Et là, on aura un couplage avec les neutrinos. Ça a été proposé et finalement, peut-être, il y a quelques modèles qui marchent. Mais ce qu'on peut retirer de là, c'est qu'on arrive difficilement quand même, malgré cette accélération de l'expansion au début de l'univers, de résoudre le problème. Alors, je reprends justement ce petit diagramme qui montre bien de quoi il s'agit. Hein. Ici, vous avez le Big Bang, vous avez un plus Z, donc on arrive à zéro ici. On a la densité en rouge de le rayonnement qui décroît en 1 plus Z4, il décroît assez vite. En bleu, c'est la matière qui, dans l'expansion de l'univers, décroît en 1 plus Z au cube, c'est le volume et la matière est conservée. On voit que le rouge et le bleu se rencontrent ici, donc ici, c'est le temps d'équivalence entre matière et rayonnement. Au début, c'est le rayonnement qui domine, près du Big Bang, ensuite c'est la matière, et on voit que l'énergie noire, donc cette fameuse énergie noire épisode précoce, cette énergie noire, elle a besoin d'un pic exactement au moment où il y a égalité entre matière et rayonnement. Alors, pour essayer de résoudre encore plus des problèmes, ils ont pensé à des modèles peut-être oscillants. Il n'y aurait pas seulement un épisode, mais plusieurs épisodes. Donc, certains modèles ici, mais c'est pour montrer un petit peu la grande activité théorique qu'il y a autour de ces modèles d'énergie noire très tôt, précoce. Mais ils ne sont pas aussi efficaces que les autres. Donc il y a par exemple un papier récent de Vagnosi qui montre que justement on a besoin d'autre chose que d'une accélération de l'expansion très tôt dans l'univers. On en a besoin quand même, mais il faut autre chose. Alors il a pour cela débloqué 7 arguments, en fait qu'il a voulu même être parallèle aux 7 premières lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, G. Enfin bon, ça c'était pour l'humour. Un des arguments est assez intéressant, c'est que on commence à avoir avec le James Webb des galaxies très tôt dans l'univers, dans les premiers milliards d'années, même 200, 300 millions d'années, et c'est des galaxies qui, en certain âge, sont déjà assez âgées, il y a des étoiles très vieilles, et donc on peut limiter l'âge de l'univers, parce qu'en fait, si vous accélérez beaucoup l'âge par une expansion accélérée au début, l'univers devient plus jeune. Et donc, il y a une limite qui va être donnée par l'âge des galaxies, qui va être plus vieille que l'âge de l'univers, encore une fois. Ça, c'est quelque chose qu'on avait résolu avec la constante cosmologique, mais ça va revenir là-dessus. Ici, on va parler de chronomètre cosmique, etc. Et puis aussi de loi de puissance. Comme vous voyez ici, il y a une loi de puissance, spectre de puissance en fonction de la taille des galaxies. On voit qu'il y a un retournement. Que ce retournement a lieu justement à la période où au redshift où il y a égalité entre matière et rayonnement, et que si vous bougez en fait ce redshift dans le temps, eh bien vous n'aurez plus du tout la même structuration de l'univers. Donc tout ça, ça va nous donner des contraintes. Et puis l'effet justement Sachs-Wolfe que je décrivais, hein, lorsque vous rentrez dans un potentiel et qu'il n'y a pas d'énergie noire, mais vous avez la même couleur au départ qu'au retour. Hein. Par contre, le photon, lorsqu'il tombe ici et qu'il y a de l'énergie noire, eh bien il va ressortir plus bleu qu'au départ, et ça dans l'univers précoce, l'univers jeune, on ne le voit pas. Alors si je prends l'argument des âges des galaxies primordiales, voici ce qu'on peut regarder, le temps, l'âge de l'univers en milliards d'années en fonction du redshift, et selon que vous avez des constantes de Hubble différentes et surtout qui varient différemment parce que vous avez un épisode d'énergie noire, eh bien vous aurez des galaxies ici qui commencent à être plus vieilles. C'est pas encore si critique que ça, et qui commence à être plus vieille que l'âge de l'univers à certains redshifts là. Donc ça va nous donner une contrainte sur les modèles que l'on peut proposer. Il y a aussi, d'ailleurs, il faut prendre en compte les amas globulaires, hein, globular cluster, les 22 amas globulaires qui sont très vieux dans la Voie lactée et qui nous donnent aussi une contrainte, c'est la contrainte en rose. Donc si vous regardez ici l'âge de l'univers en fonction d'âge 0, vous voyez qu'il y a la contrainte du fond cosmologique, du satellite Planck. Vous avez aussi les BAO. Et puis la mesure des supernovas par Schuss. Et on voit qu'on n'arrivera jamais, même si on arrive à reproduire Schuss, eh ben on n'aura pas l'âge des amas globulaires. On aura un univers qui sera trop jeune par rapport aux amas globulaires. Donc vous voyez que ça nous donne aussi une contrainte, l'âge des galaxies ou l'âge des étoiles qui deviennent plus grandes que l'âge de l'univers. Alors les chronomètres cosmiques, ça c'est très intéressant. Là, tout le problème entre constante de Hubble et puis redshift, c'est savoir en combien de temps on arrive à ce redshift-là. Le redshift, lui, il est constant. En fait, on arrive toujours à une recombinaison au même redshift, mais par contre, ce n'est pas au même temps. Et donc, c'est là qu'on aimerait avoir des chronomètres. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des galaxies très massives dont la formation est très rapide et elle est très stoppée. C'est-à-dire qu'ils consomment tout le gaz qu'ils ont disponible très rapidement. Ça peut être quelques millions d'années dans une flambée de formation d'étoiles. Et ensuite, elle est stoppée parce qu'il n'y a plus de gaz. On l'a vu ça avec le James Webb télescope. Donc on arrive à avoir l'âge des étoiles et donc il sera l'âge de la galaxie. Et donc on peut avoir ces chronomètres cosmiques ici. Alors pour l'instant il y a beaucoup de barres d'erreur, mais peut-être dans le futur on pourra en trouver plus. Ici on voit que soit le modèle standard est en bleu ici, ou le modèle avec le Schultz, avec la haute constante de Hubble en rouge. Et on voit que le rouge et le bleu ça marche tout aussi bien pour l'instant. On n'a pas assez de précision, les barres d'erreur sont trop grandes, mais dans un futur ce sera peut-être un point intéressant. Il y a aussi une autre façon de mesurer H0, complètement indépendante du fond cosmologique et puis de la supernovae, donc les deux qui sont en désaccord. Il y a une troisième méthode qui est celle des lentilles gravitationnelles. Vous voyez que parfois vous avez des mirages gravitationnels avec un quasar ici, l'observateur est ici, et puis c'est une lentille forte. Donc on a une galaxie qui fait la lentille. Les rayons sont déviés par cette lentille, et puis l'observateur il prolonge le rayon et voit une image ici, ou alors il voit une image ici. Voilà. Il peut y avoir 3 ou 4 images des mirages gravitationnels. Et ce qu'il faut, c'est que, en général, le quasar, c'est un trou noir très massif, il a des sursauts. Donc la luminosité n'est pas constante. Donc tout d'un coup, on a un sursaut et puis plus rien. Donc à ce moment-là, on va voir le sursaut arriver dans chacune des images à des temps différents. Pourquoi ? Parce que le chemin optique de ce côté n'est pas le même que celui-là, etc. On a plusieurs, chaque image a un chemin optique différent. Donc on va pouvoir, si on mesure le temps à laquelle arrive le sursaut dans cette image par rapport à cette image, on a un certain délai. Et donc ça va nous donner, comme il va à la vitesse de la lumière, de toute façon, on va avoir la distance linéaire qu'il a parcourue, du moins la différence de distance entre toutes ces images. Et comme on connaît le redshift, on va pouvoir avoir H0. Maintenant, au début, c'était une méthode qui dépendait un peu des modèles de lentilles, etc. Maintenant, on commence à avoir une précision assez grande. Bon, c'est un programme qui s'appelle H0 Lentilles Lenses in Cosmological, etc. Ça fait Holy Cow, ça fait Vache Sacrée, en fait, si vous voulez. Donc, ils arrivent toujours à trouver des acronymes qui sont très intéressants. Donc, cette méthode a une valeur 73, toujours la même que Schultz. Donc, c'est quelque chose de local, mais à plusieurs redshifts, et il commence à avoir une précision pas aussi bonne que les autres, mais ça arrive à donner quand même 2-4% au lieu d'1%, mais dans le futur peut-être encore mieux. Donc vous voyez, vous pouvez avoir 4 ou 5 images, ou bien un anneau d'Einstein. Alors l'intéressant, c'est qu'on a la valeur d'H0 en fonction du temps, ou du redshift. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il devient plus petit lorsqu'on va à grand redshift, ça descend. Donc on n'a pas seulement une valeur faible comme 67 à très très grand redshift avec Planck, ou alors la valeur de Schultz très très proche, mais on a toute une continuité. Et donc c'est plutôt un mécanisme qu'il faudrait trouver tout au long de l'univers. Ça ne suffit pas d'avoir un épisode d'énergie noire au début de l'univers. Alors ici c'est la même chose, hein, on voit que H0, selon les diverses méthodes, alors ici on a la valeur de Planck qui est très précise, en 2018, et puis le Schultz qui est ici, bon, on a une valeur, une autre méthode télécosmo, mais qui n'est pas encore très précise, il y a une barre d'erreur très grande, mais on voit qu'on a toute une continuité en fonction du temps à laquelle on mesure cet H0, et donc peut-être que c'est une valeur continue en fait, de variation d'H0. D'où le petit cartoon qui est ici, qui est dû à Christina Gherardini, qui nous dit que pour résoudre ce problème de H0 qui varie entre 67 et 73, bien, il va falloir un mécanisme, le mécanisme jaune ici, qui est peut-être d'avoir une accélération au début de l'univers, mais il faudra un autre mécanisme à des H0 intermédiaires pour ensuite rentrer dans les chaussures ici d'une constante de Hubble un peu plus grande. Alors il y a aussi le phénomène S8, j'avais bien dit que le S8 était beaucoup plus haut au début de l'univers. Alors, pour Planck, c'est ce qui est en vert ici, on voit que le sigma 8 est quand même plus grand que ce qu'on a avec les BAO, c'est-à-dire les structurations du des galaxies qu'on mesure à plus bas redshift. Donc on voit qu'il y a quand même une contrainte où les barres d'erreur ne se chevauchent pas et on a encore une tension ici. Alors pour ce problème, quelle va être une des solutions? Une des solutions, c'était par exemple que la matière noire se désintègre en énergie noire. On l'avait vu avec le gaz de Chapligin, hein, que c'est le même fluide. Alors pourquoi? Parce que si cette matière noire se désintègre, on sait que par exemple pour les WIMP, ces particules qui étaient supposées les neutralinos, c'était des particules qui étaient leurs propres antiparticules. Donc ça pourrait en effet se désintégrer. Lorsqu'elles se désintègrent, elles gagnent de l'énergie, elles sortent des puits de potentiel, donc elles lissent les structures. Donc c'est une possibilité. Ou alors, penser qu'on ait une matière noire tiède, qui a beaucoup moins de petites structures que la matière noire froide, qui est le modèle standard. Ici, c'est la différence entre les spectres de puissance par rapport au standard, et on voit que c'est pour les faibles, les petites structures, qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire les grands cas, donc les petites structures. On n'a pas de différence pour z égale 1, mais ensuite pour z égale 0, il y a beaucoup de problèmes. Alors, pour en finir avec cette constante de Hubble et cette activité assez grande des physiciens ici, on voit le nombre de papiers en fonction de l'année qui mentionnent les travaux sur la constante de Hubble et Lemaître, hein, je devrais dire Hubble-Lemaître. On voit qu'ici, jusqu'en 1998, là on a découvert l'accélération de l'expansion, il y a eu un petit regain d'activité, et puis maintenant, lorsqu'on s'est aperçu avec la précision des mesures qu'il y avait une tension entre H0 à grand redshift et localement, alors tout d'un coup il y a 10 fois plus de papier. Donc on voit qu'il y a une grande activité pour essayer de résoudre ces modèles. Alors, si je fais un petit résumé de ce qu'on voit, hein, je ne vais pas tout décrire, mais on voit que les sources possibles pour cette énergie noire étaient décrites soit par des brisures spontanées de symétrie, un peu comme pour l'inflation, ou la théorie des cordes, on va en dire un petit peu plus, puisque c'est quelque chose qui va essayer de réunir la mécanique quantique et puis la gravité, ou alors la quintessence, ou alors la kinétique essence, qui revient au gaz de Chapligin, et puis les caméléons. Alors je vais parler un peu plus du caméléon ici, avec un écrantage, parce qu'il y a beaucoup de théories comme ça, avec le mécanisme de Weinstein, qui prévoit des gravités modifiées pour à grande échelle, pour des systèmes qui sont presque linéaires, donc pas très non linéaires, la densité est faible, les fluctuations faibles, et puis dès qu'on arrive à des fortes densités et des physiques non linéaires, on a besoin d'écranter, on va expliquer pourquoi. Alors caméléon, ça veut dire que justement, comme le caméléon ici qu'on a mis sur un environnement un peu vert, eh bien il prend la couleur de l'environnement. Donc ici on sait qu'il y a des particules qui vont prendre de la masse lorsque l'environnement sera plus massif, ainsi de suite. Alors par exemple, les caméléons, ils s'écrantent, c'est-à-dire que dans les zones très denses, alors la galaxie, les galaxies, les milieux de galaxies, ou évidemment la Voie lactée, il y aurait une masse efficace qui leur donnerait une portée un peu plus petite. Hein. Vous savez que les photons ont une masse nulle, donc la portée de l'interaction électrique et électromagnétique qui est infini, dès qu'on a une masse, enfin le médiateur a une certaine masse, la portée diminue. Donc s'il y a une forte masse, on pourrait dire que la portée est plus faible, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui varie en fonction de l'environnement. Donc c'est ça l'écrantage. Et aussi, le gros problème est que on va violer le principe d'équivalence qui, lorsqu'on est sur Terre, alors je me réfère ici à la dernière expérience de vérifier le principe d'équivalence, la masse inerte et la masse gravitante, et aussi, quel que soit le matériau, vous avez exactement la même réponse, masse inerte et masse gravitante. Ici, vous avez la dernière satellite qui a été envoyé autour de la Terre avec des éléments comme le platine et un autre élément. Et on a vu que la chute libre, en fait, on a essayé d'avoir une chute libre en ayant une petite enveloppe qui essayait d'écranter tout ce qui est les perturbations du Soleil, le vent solaire, etc., les rayons cosmiques. Tout ça, on a, grâce à un laser, compensé toutes les variations. Et donc, les masses étaient vraiment en chute libre, rotation autour de la Terre. Et on a vérifié ce principe d'équivalence à la précision de 10^-15. Donc c'est énorme. Donc on a besoin que s'il y a un couplage avec la masse, on garde ce principe d'équivalence. C'est pour ça que cette détection de cinquième force ne va pas être possible vraiment lorsqu'on est sur Terre et dans une région de masse très forte. Ça a été la même chose pour le mécanisme d'Amour-Polyakov qui écrantait ce fameux dilaton qui sortait du théorème des cordes, en fait. On pourrait essayer de mesurer avec l'effet de Casimir dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet dynamique? Ça n'a pas encore été mesuré, hein, mais c'est une expérience pour le futur. Alors, l'effet Casimir statique, il est déjà bien connu hein, depuis 1940. C'était lorsqu'on met deux plaques métalliques dans le vide complet, le vide quantique, où il n'y a ni particules, ni photons, etc. On sait qu'il y a des fluctuations du vide qui prévoient, par exemple, des photons, des créations de photons. Et à l'intérieur des plaques, ces photons doivent avoir une longueur d'onde limitée, puisqu'on doit avoir un multiple de l'espacement ici. Donc il y a moins de photons à l'intérieur qu'à l'extérieur, et donc les plaques se collent. Ça, c'est ce qu'on a mesuré en laboratoire, en statique. Maintenant, l'expérience dynamique veut dire que si la plaque, une des plaques, bouge avec une grande fréquence, avec la fréquence même de photons possibles qui vont arriver, et là, on pourrait créer des particules. Créer des particules, photons, fermions, et peut-être les caméléons, ces particules de matière, d'énergie noire, ou alors ces particules empêcheraient les autres d'être créées, etc. Donc ça, c'est une expérience qui est en train d'être essayée, mais pour l'instant, on n'y arrive pas, parce qu'il faut... Il faut vraiment fournir une énergie terrible pour faire vibrer une des plaques, mais peut-être dans le futur, on aura une possibilité de mesurer ce genre de physique. Donc, je vais terminer en essayant de terminer avec la gravité modifiée. Alors, cette énergie noire, je vous ai dit qu'on a les deux solutions. Dans l'équation d'Einstein, on a d'un côté la géométrie, hein, la courbure de l'univers, la géométrie de l'univers. R, c'est le rayon de courbure, ici, c'est le tenseur de Ricci. Et la courbure de l'univers est égale à toute la masse, le tenseur énergie-impulsion qu'on a à droite. Alors jusqu'à présent, on a décidé d'avoir une énergie noire, un champ scalaire, etc., qu'on mettait à droite, puisque c'était l'énergie qu'on rajoutait. On peut penser qu'on va modifier la gauche maintenant. En fait, c'est un peu équivalent, hein, vous allez me dire, c'est un vocabulaire. Mais enfin, c'est gravité modifiée, ça veut dire qu'on modifie ce terme-là. On modifie la gravité qui ne sera pas tout à fait la gravité d'Einstein, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Évidemment, on peut, dans le système solaire, tout est bien vérifié. La gravité d'Einstein est complètement vérifiée. Il faut le changer à très, très grande échelle. On peut penser à un graviton, c'est-à-dire que la particule médiateur de cette énergie, un peu comme dans la théorie des champs, serait non pas de masse nulle, à portée infinie, mais une masse légèrement très faible. Alors ça résoudrait notre problème, puisque à très grande échelle, on aurait moins de gravité que celle qu'on connaît d'Einstein, et donc on pourrait expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Ce serait une des idées. En tout cas, ce graviton, s'il est massif, bon, c'est un boson de spin 2. Hein, il a un quadrupôle ici. Quand on a mesuré les ondes gravitationnelles, à partir de 2015, on a mesuré ces ondes gravitationnelles, elles ont cette polarisation. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dipôle, il n'y a pas de masse négative, donc il n'y a pas de dipôle, mais il y a un quadrupôle. Et c'est cette interaction avec un spin 2 qu'on va essayer de calculer. Alors cette gravité massive a une longue histoire. Il y avait déjà Pauli et Fiertz, c'est le Wolfgang Pauli en fait, de la mécanique quantique en 1939, qui avaient trouvé, mais pour une gravité complètement linéaire, une gravité sans fantôme. Quand on parle de fantôme ici, c'est quelque chose qui n'est pas physique, qui a une énergie négative ou une masse négative, etc. Donc il faut essayer d'éliminer les fantômes. Donc ils avaient un graviton massif de spin 2, mais le gros problème, c'était complètement linéaire. Dès qu'on arrivait à la non-linéarité, il y avait un problème de fantôme. Et puis aussi, on avait un problème de discontinuité. C'est-à-dire que lorsque on faisait tendre la masse de ce graviton vers zéro, on devrait retrouver les équations d'Einstein, enfin la gravité ordinaire. Eh bien non. Donc il y avait un problème. Et c'est là que le mécanisme d'écrantage de Einstein existe. C'est que pour retrouver, lorsque M tend vers zéro, la relativité générale, il fallait écranter, renormaliser. cette renormalisation qui écrante en fait la théorie ici non linéaire. Alors maintenant on arrive à trouver une théorie non linéaire grâce à Claudia de Ram qui est ici, mais on a besoin de cet écrantage de Weinstein. Alors à quelle distance cette modification de gravité est-elle écrantée? Mais quand on regarde le rayon d'écrantage de Weinstein, hein, c'est une fonction de la masse de la source, la masse du graviton, M, la masse de Planck, qui est connue, eh bien, quand on met toutes les variables ici, on voit que c'est 800 kiloparsec. C'est-à-dire que si on est dans la Voie lactée, 800 kiloparsec, c'est la distance à Andromède. Donc c'est un énorme écrantage. Donc on ne va pas pouvoir mesurer vraiment cette gravité modifiée que à très très grande échelle, justement, enfin, c'est ce qu'on mesure avec l'énergie noire, en quelque sorte. Mais il est normal que cette non-linéarité soit renormalisée par cet écrantage de Weinstein, et donc on ne va pas pouvoir vraiment avoir ces manifestations à faible distance. Alors comment on peut tester la gravité? Alors ça a été plus ou moins fait à petite échelle et à grande échelle, je vais passer assez vite ici. Ici vous avez la longueur à laquelle on fait l'expérience. Alors ici c'est 1 cm et beaucoup moins, donc c'est en laboratoire, et toute la zone jaune a été enlevée. Alors jaune en fonction de alpha, vous voyez, c'est la modification éventuelle d'une gravité, d'un potentiel newtonien en Gm1 sur R, et puis un petit alpha, une modification. Et on voit qu'on a déjà quand même en laboratoire des contraintes sur la modification vraiment d'une gravité. Alors à ces échelles-là, qui sont des échelles planétaires, on a de la géophysique, on a des radars, on a des lasers, etc. On a aussi éliminé une grande partie de la possibilité de modifier la gravité. Alors, il y a une autre gravité qui a occupé pas mal de personnes aussi, c'est Dvalli-Gabbazeporati, DGP. L'idée était de dire que nous sommes à 3 dimensions ici dans notre modèle, et que la gravité va se développer dans une 5e dimension. C'est un peu comme les cornes, mais pas tout à fait. Avec les cornes, on a 26 dimensions, donc là, c'est juste une 5e. Et que cette 5e dimension va arriver à une certaine longueur typique, qui est assez grande, en fait, et qui, donc, au-delà d'une certaine taille, on aurait finalement une gravité plus légère, puisque le graviton s'en va dans la 5e dimension et n'est plus dans la 3e. Donc, ça nous dégravite, en quelque sorte, et ça peut simuler une énergie noire. Alors, maintenant, j'en viens à la quantification, hein, c'est-à-dire comment peut-on expliquer la gravité quantique, donc mélanger un petit peu, essayer de rendre compatible la mécanique quantique et la gravité. Alors on sait que jusqu'à présent, en gravité ordinaire, on a toujours des singularités, par exemple le trou noir, le Big Bang, et ça, déjà, la théorie des cordes avait essayé d'enlever les singularités. Par exemple, une particule comme l'électron, elle est très ponctuelle. Donc les particules étaient des cordes, en fait c'est ça la théorie des cordes, les particules sont remplacées par des cordes, on n'a plus de singularité. Par contre, la théorie des cordes, ce qu'elle faisait était perturbative, c'est-à-dire que l'espace était le même, le support de l'espace n'était pas changé. La gravité quantique fait quelque chose de mieux, c'est qu'elle pense que dès qu'on arrive à des petites échelles, l'échelle de Planck c'est 10^-35 m, eh bien l'espace lui-même doit être quantifié, c'est-à-dire qu'on doit avoir des petits bouts d'espace, on doit avoir une courbure de l'espace qui est variable, qui va faire partie d'une fonction d'onde, un peu comme toutes les variables quantiques qui ont des fonctions d'onde qui sont un petit peu incertaines. Et donc ça, c'est ce qui est vraiment l'effort qu'ont fait les partisans de la gravité quantique à boucle, c'est de quantifier l'espace lui-même. Alors cet espace, il est troué, il est fait de morceaux, de petits grains d'espace. Et lorsqu'on arrive à ces petits grains, et en fait, entre les petits grains, il y a un vrai vide cette fois-ci, il n'y a pas de fluctuation de vide, et on arrive à des forces répulsives. Et c'est ça qui va nous donner la pression négative que l'on cherche dans l'énergie noire. Donc peut-être que cette idée de gravité quantique, qui au départ était juste faite pour avoir une gravité quantique, mais n'avait pas pensé à l'énergie noire, peut-être elle va nous résoudre le problème de l'énergie noire. Alors, dans ce formalisme, le Big Bang que vous voyez ici, eh bien, il rebondit. En fait, il n'y a pas de singularité, donc il rebondit. En fait, il n'y a plus d'espace et de temps, mais on a un autre espace de l'autre côté. Ben, c'est mieux que les modèles cycliques, parce que les modèles cycliques, c'est le même univers, en quelque sorte, qui revient avec d'autres épisodes. Et à ce moment-là, il y avait un gros problème d'entropie, que je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, je vais aller un petit peu vite pour la fin. En fait, on a des boucles de spin ici, qui sont les excitations de l'espace, des petits bouts d'espace. Lorsqu'on est à grande échelle, on a un espace continu. Et on peut se représenter ça avec des réseaux de spin. Ces réseaux de spin qui avaient été inventés déjà par Penrose, qui sont réutilisés ici. Et on a des espèces de spin qui lient les petits éléments ensemble et qui représentent aussi la courbure de l'espace en même temps. Donc on peut se représenter cette gravité quantique ici. Et donc au début, on a une température infinie du Big Bang et on a cette espèce de rebond ici. Et il y a quand même des points qui sont positifs, contrairement un peu à la théorie des cordes qui n'a pas prédit quelque chose. Ici, on peut prédire pour le trou noir qu'on a une entropie qui est exactement celle de Bekenstein-Hawking. Comme vous le savez, il y a une entropie à petite échelle. Toute l'information qui est dans la matière qui est tombée dans le trou noir, elle se retrouve à la surface du trou noir, à l'horizon, et elle est proportionnelle à la surface. C'est-à-dire qu'il y a tous les quantums d'information qui sont des éléments de surface. C'est-à-dire que l'information ne croit pas à l'infini, il n'y a pas d'infiniment petit en quelque sorte. On a quelque chose qui croit comme la surface et non pas le volume. Ça, c'est très important et ce que retrouve la gravité quantique à boucle. En fait, ce n'est pas un réseau de spin très, très déterminé puisqu'on a une incertitude due à la quantique, on a un nuage de probabilité. C'est comme les fonctions d'onde, on ne sait pas où l'électron est, il y a une fonction d'onde qui donne la probabilité de la position de l'électron. Ici, c'est pareil pour les petits éléments de surface. On parle de mousse de spin, puisqu'on a des fonctions d'onde qui sont assez incertaines. Il y a une incertitude qui est inhérente à la mécanique quantique. Alors ça a été calculé en 2008-2011 et ils ont trouvé une pression négative, donc d'où l'espoir de trouver l'énergie sombre avec ce formalisme. Alors comment on pourrait les détecter? Il a été déduit de cette gravité quantique à boucle que si on avait par exemple un sursaut gamma, c'est les fameux GRB, gamma rebirth, et qui étaient assez loin, en général ils sont à des milliards d'années-lumière, on les détecte sur Terre et la vitesse du son, la vitesse de ces sursauts gamma, elle est un petit peu différente en fonction de l'énergie du photon. Alors ça c'est une prédiction, normalement tout le monde va avec les vitesses de la lumière dans le modèle standard, mais là on pourrait voir une petite différence et on a essayé de faire l'expérience avec ce très fort sursaut gamma. Et après des millions de milliards d'années, on n'a rien trouvé. La vitesse est la même, donc pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Là, je passe, c'est le même gamma rebirth. En fait, il y en a un autre en 2022, le plus brillant des sursauts gamma. On a des photons de 13 à 18 téraélectronvolts, c'est vraiment le plus puissant. Et même celui-là, on n'a pas trouvé de violation à l'invariance de Lorentz. Tous les photons, n'importe quelle énergie, arrivent au même moment. Donc on n'a pas vérifié ce problème. Il y a quand même une prédiction cosmologique qui est due à Abstecker et Gupt ici, c'est qu'ils prédisent un petit élément dans les fluctuations de pression de Planck ici. Ils prévoient, vous voyez ici, la gravité quantique à boucle, c'est la rouge. Un autre modèle similaire est ici. Alors c'est un peu ennuyeux parce que c'est justement là où il y a la variance cosmique et que les barres d'erreur sont très grandes, donc tous les modèles marchent bien, donc on n'arrive pas à le vérifier. Donc en gros, on a ces deux théories pour la gravité quantique, c'est la théorie des supercordes qui ont 26 dimensions, on le représente par ces dimensions qui se replient sur elles-mêmes, et donc je n'ai pas beaucoup de temps, mais je dirais que finalement, cette théorie des cordes, je passe au truc suivant, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés dans cette théorie des cordes. Il n'y a toujours pas de supersymétrie qui a été trouvée, donc la supersymétrie permettait d'avoir beaucoup moins de dimensions. Et puis, le nombre de degrés de liberté est vraiment très très grand, et on n'a pas encore fait de prédiction avec cette théorie des cordes, mais enfin, elle est toujours en cours. Et pour la gravité humidifiée, donc l'état de l'art est le suivant. On a eu beaucoup de contraintes avec l'événement du sursaut gamma en 2017 qui a à la fois envoyé des ondes électromagnétiques, le sursaut gamma, et puis des ondes gravitationnelles. Et c'est un événement assez important puisqu'elle a permis de montrer que ces deux événements arrivaient à la même vitesse après 45 milliards d'années-lumière. Donc, on a une précision extrême sur cette vitesse. Ça veut dire qu'il y a énormément de modèles de gravité modifiée qui ont été éliminés par ce principe. Alors maintenant, il en reste encore. Hein. Il y a par exemple les théories de Ornansky ici, des théories au-delà. Certaines ont été éliminées par cette vitesse-là. Et puis, il y a le phénomène de DOST, la dégénérescence high order scalar tensor, ce qui va peut-être nous en parler Yann Drasera tout à l'heure. Et puis, encore d'autres théories de liberté. Donc, vous voyez, encore beaucoup, beaucoup d'espace à explorer avant de pouvoir trancher. Donc, je conclurai que les propositions sont très, très nombreuses pour expliquer l'énergie noire, la quintessence, le gaz de Chapligin. Il y a des multiples théories de gravité modifiées. Et récemment, on a beaucoup entendu parler de cette énergie noire, un épisode d'énergie noire très tôt dans l'univers qui permettait d'expliquer la tension, enfin une partie de la tension d'H0 et de S8, mais que peut-être on aura aussi une solution avec les théories de gravité quantique. Donc je vais m'arrêter là.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.